Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique, comme toujours, mon complice Léo et votre serviteur Andrés Atenza. Excellente année 2024, qu'elle soit lumineuse, fraternelle et peut-être à la manière de Victor Hugo. Saluons cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. En direct des studios Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui la directrice de 2IME dans la région, ou plutôt la région, dans le département des Hautes-Pyrénées. Deux IME, Instituts Médico-Éducatifs, un situé à Tarbes, l'autre à Lourdes. Je reçois Madame Arnaud Bistondeau. Madame Bistondeau, soyez la bienvenue.
Je vous remercie et vous souhaite à mon tour mes vœux les meilleurs pour l'année 2024.
Deux IME, c'est quand même un gros chantier, quoi. C'est un établissement qui reçoit 55 jeunes. De 0 à 22 ans. Un autre, une quarantaine de jeunes, peut-être pareil, jusqu'à 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont ces jeunes, d'où ils viennent et pourquoi ils ont atterri, pourrait-on dire, dans vos deux institutions, l'un à Tarbes, quasiment au centre-ville, et puis l'autre, pourrait-on dire, à la périphérie de la belle ville de Lourdes.
Alors, ce sont des enfants et des adolescents, effectivement, qui ont les agréments pour les deux établissements sont à l'origine de 6 ans à 20 ans, en termes d'accueil. Pour l'établissement IME José Forgues, un agrément par une extension non importante d'une capacité d'accueil de 10 enfants de 3 ans à 6 ans, en ambulatoire, hein, a été accordé. Ce dispositif a démarré.
Vous nous expliquerez ce que veut dire ambulatoire. Oui. C'est important de préciser l'ensemble des dispositifs.
Oui, donc ambulatoire, il s'agit d'un accompagnement en milieu ordinaire vers le domicile au sein des établissements scolaires.
Ce sont bien les professionnels qui se déplacent dans le milieu naturel des enfants.
Quoi. Exactement.
Et qui les accompagnent, soit à l'école, soit chez eux, ils rencontrent les parents régulièrement, c'est ce dispositif-là.
Exactement.
Ils viennent quand même dans votre établissement de temps en temps.
Oui, on essaie quand même tout de même d'intervenir en milieu ordinaire le plus possible, donc parfois en établissement sur des regroupements familiaux ou quelques animations, mais l'essentiel de la mission et de l'activité se déroule effectivement sur l'extérieur.
Voilà. Et ces jeunes, ils ont quel type de handicap ? Parce que les IME, dans cette émission Sentinelle d'Humanité, on a parlé des MECS, on a parlé des DITEP, on a parlé des troubles du comportement. L'Institut médico-éducatif, c'est plutôt la déficience cognitive ?
Alors, ce sont des déficiences cognitives, mais qui peuvent être aussi psychomotrices, qui peuvent être aussi affectives. Nous avons également quelques enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. De modalités d'accompagnement doivent être adaptées et au plus près des besoins de ces enfants, d'où la complexité et la pertinence de ces dispositifs qui permettent d'accompagner de manière pluridisciplinaire ces enfants par le biais d'un accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique.
Donc vous dites pédagogique, ça veut dire que les jeunes que vous accueillez vont à l'école, dans les écoles du quartier, dans les lycées du quartier, ou c'est vous qui organisez la formation et la scolarité, en lien peut-être avec l'éducation nationale ?
Oui, nous sommes au sein de l'IME, nous avons des postes d'enseignants qui font partie de l'équipe, qui font partie des effectifs de l'établissement, mais qui sont rémunérés par l'éducation nationale et qui
ressortent. Donc vous avez un partenariat avec l'éducation nationale.
Oui, tout à fait.
Et donc vous faites classe, ces enseignants font classe.
Font classe au sein de l'IME.
Au sein de l'IME.
Le dispositif ambulatoire dont nous parlions tout à l'heure, les équipes interviennent dans les classes en milieu ordinaire. Voilà, la différence entre les deux.
Ces jeunes, jusqu'à 20 ans, ils obtiennent des diplômes, ils obtiennent des qualifications.
Oui,
ça se passe bien, là, cette scolarité.
Donc, avant d'avoir 20 ans, on en a des plus jeunes, effectivement, qui sont accompagnés au sein de l'établissement également, par ces professionnels, donc les enseignants. Les enfants font partie de groupes de besoins qui sont constitués en fonction d'évaluation, de rencontres qu'il y a au sein de l'établissement. Au départ, au moment de l'admission, il y a une période de rencontres et de découvertes, un stage de découverte. Et les enfants, donc, faisant partie des groupes de besoins, permettent d'être au plus près dans l'accompagnement des professionnels qui exercent. Donc les enseignants, les éducateurs et les thérapeutes, hein, parce qu'un enfant ne peut pas se développer correctement s'il n'y a pas une prise en soins rapprochée. Donc nous avons, en tant que professionnels, infirmières, médecins, psychiatres, psychomotriciennes, ergothérapeutes.
Alors, pour 55 enfants accueillis, vous avez combien de professionnels? Vous avez parlé d'équipes pluridisciplinaires, infirmiers, psychiatres, etc. Alors, c'est combien de personnes pour 55 jeunes accueillis?
Alors, pour 55, donc dans les 55, nous avons 45 enfants et adolescents à l'IME, 10 places pour de l'accueil de nuit. Donc, on a de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit. Nous avons parlé du dispositif de type CESAD. Donc là, nous sommes sur les 55 et nous avons une équipe de 36 salariés et 28 équivalents temps plein, tout confondu, comprenant également les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs
spécialisés.
Voilà. Et puis tout le personnel administratif et logistique également.
Alors vous avez parlé d'éducateurs techniques. Alors, est-ce que vous avez des ateliers particuliers au sein de l'institution Joseph Forgues à Tarbes?
Alors, Joseph Forgues, alors la différence, vous m'invitez tout à l'heure à présenter un petit peu les différences entre les deux structures. Bon, effectivement, sur l'IME Saint-Michel de Biscaye, nous avons la possibilité, nous offrons la possibilité aux enfants de pouvoir se diplômer avec des parcours de professionnalisation, ouvrier du paysage, agent de restauration.
Saint-Michel de Biscaye, c'est Lourdes.
Lourdes.
Voilà, à Lourdes. Donc, et là, pareil, mais c'est quand même pas une quarantaine de jeunes. Et là, vous dites une spécificité. Nous offrons à ces jeunes, qui, si ça leur plaît, d'aller vers des métiers quasiment de l'agriculture, quoi, hein, paysagiste, ouvrier. Et ils obtiennent quoi, un CAP,
Des titres professionnels. Voilà, ouvrier du paysage et agent de restauration. Également, la possibilité d'avoir quelques approches concernant les métiers du bâtiment, hein, sur un éducateur technique spécialisé qui s'est diplômé également par rapport à cette...
Avec ce titre professionnel, quand ils sortent de l'IME, ils trouvent du travail assez facilement dans la région, dans le département, soutenir
C'est difficile. Ce sont des enfants qui ont des troubles reconnus qui doivent être accompagnés en milieu ordinaire, mais qui doivent continuer et poursuivre leur chemin en intégrant les troubles dans leur fonctionnement. Généralement, ils s'orientent vers des ESAT, majoritairement au niveau de l'IME Saint-Michel-de-Biscaye.
Et des ESAT qui se trouvent dans le département
dans le département général.
L'offre d'accueil est quand même suffisante aujourd'hui, on peut dire ça, pour les familles,
elles sont à peu près satisfaites, pas totalement. Nous avons des jeunes en amendement creton, hein, ce sont des enfants que nous devons garder parce qu'ils n'ont pas de solution immédiate lorsqu'ils atteignent les 20 ans. Et pour ce qui est de l'IME Joseph Forgues, nous avons des enfants qui s'orientent davantage vers des foyers de vie, hein, qui ont davantage de mal à intégrer...
À intégrer un milieu ordinaire et intégrer quand même...
Un milieu où ils pourraient travailler.
Voilà. Alors ça, c'est difficile. Donc ça veut dire que le handicap souvent est un handicap qui est assez sévère, on pourrait le dire comme ça, pour trouver sa place dans la société, parce que tout le monde parle de société inclusive, mais là vous dites, malgré tout ce que nous faisons, la société inclusive, malheureusement, parfois, n'est pas au rendez-vous, quoi.
Alors, c'est un des objectifs. On sait que c'est très difficile de mettre en œuvre ces démarches inclusives, bien qu'elles soient portées depuis longtemps dans nos politiques sociales. Elles ne se décrètent pas. L'idée, c'est que ces enfants n'aient pas de rupture dans le parcours et qu'on puisse, en tant que professionnels et structures, travailler en co-construction avec l'enfant et son environnement pour qu'il n'y ait le moins de rupture possible et qu'il puisse trouver une place, qu'elle soit dans le milieu du travail ou dans un autre endroit dans notre société. Et ça, c'est le fameux zéro sans solution qui est à mettre en œuvre et que l'on travaille en partenariat sur le territoire avec la Maison départementale des personnes handicapées, l'Agence régionale de la santé et puis nos partenaires également institutionnels, le Conseil départemental également.
Mais là, le financement de vos IME, c'est un financement ARS, c'est-à-dire Sécurité sociale.
Oui,
le département n'intervient pas.
Non.
Mais vous dites qu'ils peuvent être aussi partenaires, mais différemment. Quoi.
Oui, ce sont des dispositions légales qui permettent de mettre en place des groupes des groupes opérationnels de synthèse, qui permettent de justement travailler autour des besoins des enfants sans solution, et quitte à leur organiser par la suite un plan d'accompagnement généralisé, afin de s'articuler autour de ses besoins et que chacun puisse apporter des prestations en haut regard de ses besoins.
Vous avez dit à Biscaye, à Lourdes, donc Saint-Michel de Biscaye, établissement de Lourdes, il y a donc ouvrier paysagiste, mais également un restaurant d'application. Ce restaurant d'application, il est ouvert au public, c'est-à-dire le concitoyen de Lourdes peut prendre rendez-vous et déjeuner dans votre établissement.
Oui.
Et le service est réalisé les jeunes.
Oui, exactement.
Se passe bien.
Se passe très bien.
C'est assez fréquenté, ce restaurant d'application.
Oui. Il est connu, mais on ne fait pas trop de publicité parce qu'effectivement, il est déjà plein. Le bouche à oreille fonctionne bien, on a des habitués, c'est précieux dans le cadre du développement professionnel des enfants accompagnés, de fidélité, le fait qu'il puisse y avoir une interaction entre le client.
Et donc c'est une vraie mise en situation professionnelle.
Exactement,
quoi,
oui.
Est-ce que pour les ouvriers paysagistes, quelqu'un peut vous demander, venez réaliser, je vous prête mon jardin, faites quelque chose dans mon jardin, est-ce que vous pouvez le décorer? Est-ce que vous faites ce genre d'activité? Non, vous l'avez jamais tenté?
Alors, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire si ça s'est déjà tenté, pas que je sache en tout cas. Il y a eu des interventions au niveau de la ville de Lourdes, à Biscaye, sur le terrain de golf. Donc, avait une équipe qui, avec les enfants, accompagnait de manière à assurer l'entretien du terrain de golf. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais effectivement, ce n'est pas exclu.
Il y a une ouverture. Dans le cadre de l'ouverture des multiples partenariats, ce sont des choses... Vous avez parlé d'équipes pluridisciplinaires. Elles se retrouvent régulièrement. C'est vous qui animez ce travail de direction de l'équipe pluridisciplinaire, une directrice comme vous dans les deux établissements. Allez, racontez-nous une journée de type de travail.
Alors, je ne suis pas seule directrice, un cadre dans les deux établissements, puisqu'il y a une responsable de service à l'IME Joseph Forgue et deux responsables de service sur Saint-Michel du Biscaye.
Ils sont vos adjoints, on pourrait dire.
Oui, je n'ai pas de directeur ou directrice adjointe, donc effectivement, nous travaillons en équipe de direction et depuis, nous avons essayé depuis cette année de mettre en place une équipe de direction commune, de manière à pouvoir échanger et être cohérent dans nos actions, puisque également le fait que ces deux IME soient dirigés par une même personne, faisant partie également de la même filière de l'ANRAS. Donc nous travaillons, il nous semble pertinent de pouvoir travailler de manière concertée et rapprochée. De plus, nous avons des postes mutualisés sur les deux établissements, ce qui nous permet d'optimiser au mieux les ressources humaines, puisque nous pouvons
l'argent
proposer...
public, il faut le rationaliser, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Nous pouvons proposer des postes partagés, être plus attractifs. On sait que dans le secteur, l'attractivité des métiers, c'est un peu de nos métiers, c'est un peu... c'est un des problèmes sur lesquels il faut se pencher. Donc, pouvoir proposer des postes à temps plein à des professionnels qui seraient à mi-temps sur chaque établissement, c'est une façon aussi de fidéliser et d'être plus attractif dans les projets.
Donc, des psychologues, vous en avez combien, par exemple, sur les deux établissements ?
Alors, on les a vraiment à temps très partiel. Puisque les psychologues, on les a également, elles sont partagées également avec d'autres associations
avec
et d'autres établissements du territoire.
Voilà. Des orthophonistes également interviennent régulièrement.
Oui.
Et c'est pas trop difficile en effet, parce que c'est, on sent qu'il y a une pénurie forte dans ces métiers-là.
Mais comme dans tous les métiers du médical et paramédical.
Aujourd'hui, oui. Malgré tout, vous arrivez. Vous avez votre équipe, pourrait-on dire, assez complète.
Nous faisons appel au personnel libéral.
Personnel libéral.
Oui. Donc les orthophonistes qui sont en milieu ordinaire et que nous sollicitons. Donc nous devons amener les enfants. Et c'est vrai que dans les IME, en général, font partie de notre mission les transports. C'est un gros poste. Nous avons du personnel mobilisé pour assurer les transports matin et soir, mais également pour accompagner les enfants auprès des professionnels libéraux en milieu ordinaire, dans la cité. Et c'est parfois difficile de répondre à cette gymnastique, on va dire, logistique, le fait de ne pouvoir recruter dans nos établissements des professionnels salariés.
Vous avez parlé également de psychiatre, c'est une denrée très rare. Vous en avez un, là ?
Oui.
Il faut le garder, alors ?
Oui, tout à fait.
Ne le prêtez pas !
Non. On y veille précieusement, oui.
Et quel est le rôle du psychiatre dans ce type de prise en charge ? Qu'est-ce qu'il fait exactement, là ? C'est important. Je dis cela parce que derrière, il y a, quand on parle d'éducatif et de thérapie, il y a toujours des écoles, vous le savez, Madame Bistondeau, de quelle école peut-on se réclamer ou de quelle chapelle éducative, thérapeutique peut-on se réclamer au sein des deux établissements de l'ANRAS, Biscaye et Joseph Forgue, là. C'est quelle thérapie ? Est-ce que vous avez un mouvement, comme on dit, la psychothérapie institutionnelle,
oui, alors, à l'origine,
comportementaliste, parfois cognitiviste.
Non, on est plutôt beaucoup sur du clinicien. Hein, plus,
oui.
Il y avait effectivement la psychothérapie institutionnelle à l'origine sur l'IME Saint-Michel du Biscaye. Aujourd'hui, on a encore...
Il y a une évolution également.
Oui, voilà.
Ouais. Et qui permettent, bien entendu, de par rapport au spectre autistique, d'accueillir, oui, de me diagnostiquer, quoi. C'est ce travail.
Ouais. Alors, les professionnels médicaux et psychiatres sont aussi au plus près des équipes, hein, dans nos établissements et dans nos institutions. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir faire partie des réunions d'équipe, de pouvoir apporter un éclairage aux professionnels, et on les attend beaucoup. Les professionnels sont très en demande. Et lorsque nous ne parvenons pas à recruter ces professionnels-là, au-delà, hein, bien sûr, de l'accompagnement en soins des enfants, la présence auprès des équipes est fondamentale.
D'accord. Écoutez, je vous propose de faire une pause, une petite balade avec Charles Aznavour. Vous allez voir les yeux bleus.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller, destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus lent que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, aujourd'hui avec Anne Rubistondo, directrice de deux établissements d'IME, Institut Médico-Éducatif, l'un à Tarbes, l'autre à Lourdes, dans le département des Hautes-Pyrénées. De belles institutions qui accueillent des enfants, une cinquantaine d'enfants, un peu plus de 50 enfants dans chaque établissement. Nous avons abordé la question de la professionnalisation des titres, l'accompagnement pour une société inclusive. Je souhaiterais, Madame Rubistondo, qu'on revienne à Tarbes, à Joseph Forgue, parce qu'il me semble qu'il y a aussi une petite spécificité dans cet établissement. Avec les jeunes, vous les accompagnez à la découverte des métiers. Et alors, vous avez également un service pour la restauration, mais vous avez aussi un service particulier où les concitoyens de Tarbes peuvent peut-être amener les chemises et les draps, dont vous avez une petite blanchisserie à disposition.
Oui, les enfants peuvent découvrir les métiers, mais l'objectif, il est aussi dans les apprentissages. Donc là, on n'est pas sur de la qualification, si ce n'est des reconnaissances de savoir-faire professionnel, qui permettent d'obtenir des compétences dans ces domaines-là. Vous avez parlé de la blanchisserie, il y a également la restauration et l'hôtellerie, où ils peuvent exercer et être sur des petits stages.
Ça permet de les orienter, de les tester, ça permet de voir si les apprentissages sont possibles.
Si eux, surtout, oui. Ont des accroches, peuvent se retrouver, et puis au travers de ces métiers-là, ils peuvent acquérir, on peut apprendre à compter, des draps, ça permet de... Voilà, de
on revient aux fondamentaux, quoi. Voilà.
Oui, exactement. Les apprentissages peuvent aussi passer par ce biais lorsque c'est trop compliqué dans des classes...
Classiques,
voilà. Donc, sur l'établissement de Forgue, il y a également l'hygiène des locaux, où on a la possibilité d'accompagner des groupes d'enfants sur tout ce qui est nettoyage, approche des circuits de propre de salle, etc. Donc, le travail se fait aussi en co-animation, beaucoup, entre une enseignante, une éducatrice, entre... l'ergothérapeute et puis une éducatrice entre une thérapeute, l'infirmière par exemple, et une éducatrice. Donc elles animent des groupes de manière partagée pour aussi être au plus près de ce qu'on pourrait proposer à ces enfants qui ont vraiment des difficultés dans les apprentissages.
Les jeunes participent volontairement, il n'y a pas de refus de participer aux activités. Vous avez des jeunes qui sont un peu résistants, réticents, pourrait-on
oui,
dire.
Oui, il faut toujours s'adapter. Puis bon, les enfants, bien sûr, aujourd'hui, on doit entendre, écouter, et puis être nous-mêmes... s'articuler autour de ses besoins et de son souhait et de sa volonté, puisqu'on doit vraiment s'attacher à recueillir le souhait, la parole de l'enfant, et puis qu'il puisse s'exprimer. On est sur l'autodétermination, sur le pouvoir d'agir.
Justement, comme on parle d'autodétermination des enfants, entre 16 et 20 ans, et quand 17, 18, 19, 20, l'autodétermination, c'est important. Est-ce que les familles viennent régulièrement, vous sollicitent, sont consultées, participent à la, vie, à la vie de vos établissements?
Fondamental, le travail avec les familles. On ne peut pas accompagner un enfant correctement si on ne sollicite pas et si on ne s'approche pas et si on ne communique pas avec ses proches et son environnement proche. Bon, il y a des familles, mais également des familles d'accueil et puis d'autres possibilités également. Nous sommes en contact
dès l'intégration.
Les prémices de la démarche de la famille, et puis également avec des contacts réguliers, mais également est proposé un conseil de la vie sociale dans nos structures qui est une instance où, officielle de membres élus par leur père. Donc les familles sont élues par les autres parents, familles. Les enfants sont élus. Les élus du CVS sont élus par les autres enfants. On procède vraiment à des élections.
Il y a une démocratie sanitaire qui se met en œuvre, pourrait-on dire.
Et c'est une mission qui est vraiment participative, où nous devons les consulter lorsque nous procédons à une organisation importante au niveau de l'établissement.
Est-ce qu'ils participent à la vie pédagogique ou éducative en vous accompagnant? Allez, je tente une expérience. Vous voulez aller au théâtre, à l'opéra avec ses enfants? Est-ce que les familles viennent? Est-ce qu'ils sont bénévoles? Est-ce qu'ils vous donnent un coup de main? Est-ce qu'ils travaillent avec les éducateurs? Est-ce que ce type d'expérience se fait ou pas?
Les familles sont conviées lors de cafés par an, certains sur des temps où certaines thématiques seront travaillées. Alors ça, ça a été mis en place assez récemment
par vos équipes,
ma collègue que je... Stéphanie Aluguiader, qui n'est plus là, mais que je remplace et qui a vraiment mis tout cela en place précédemment. Donc, les cafés par an, la fête de l'IME, également, ces familles sont présentes.
Sont mobilisées, sont présentes.
Mais par contre, ils ne sont pas présents lorsqu'il y a des apprentissages, lorsqu'il y a des activités inclusives. Enfin, c'est pas parfois sur certaines sorties, mais c'est quand même relativement exceptionnel.
D'accord. Il y a du sport. Est-ce que ces jeunes font du sport? Alors, quand vous êtes sur une région, il y a beaucoup de montagnes. Est-ce que c'est particulièrement le ski, la montagne, les randonnées ou...
Alors, il y a
quel type d'activité sportive pour ces jeunes?
Alors, il y a, le ski, il y a l'escalade, la marche, et puis alors d'autres activités également. Alors, ça c'est en partenariat avec le comité départemental de sport adapté, avec lequel nous sommes partenaires sur les deux établissements.
Alors, ça veut dire quoi? Qu'il vous organise ou vous prête du personnel, très concrètement?
Il y a un organisateur et nous avons des professeurs de sport sur les deux IME, un sur chaque IME, qui est évidemment en première place pour participer à toutes ces organisations sportives.
Et donc, les diplômes requis pour pouvoir les accompagner et mettre les jeunes... dans une situation de sécurité la plus parfaite. C'est cela le partenariat que vous maintenez dans le département.
Au niveau du sport, oui.
Au niveau du sport.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres activités?
Alors oui, des activités inclusives, donc on en a parlé, mais il y a le conservatoire de Tarbes. Alors parce qu'il y a la culture aussi.
Qui est un très beau conservatoire, m'a-t-on dit, quand même. Mm-hmm. Donc vous travaillez avec eux. Alors ils pratiquent quel instrument? Vos jeunes.
Alors c'est plutôt de l'initiation à la musique. On n'a pas des cours vraiment. C'est un milieu ordinaire notamment où ils vont pouvoir être dans des groupes avec d'autres enfants inscrits au conservatoire. Donc on est vraiment sur une démarche inclusive pour le conservatoire. Ensuite, ils vont à l'SPA, l'école, un partenariat avec l'école de danse également. Donc là, même démarche, le cirque.
Et le cirque.
Et de la médiation animale. Donc à l'IME Saint-Michel-du-Biscaye, nous avons une professionnelle qui est une éducatrice spécialisée qui est en formation et qui vient dans les établissements avec ses animaux.
Avec quels animaux sont...
De chiens,
chien
cochontaine, de lapin,
ouais.
Voilà.
Voilà, d'accord. Le cheval aussi, ou alors vraiment c'est trop
encombrant? Les enfants sont amenés, on a des séances d'équité, oui.
Parce que le cheval, c'est difficile.
Pas encore.
Pas encore.
Par contre, l'équithérapie, c'est une activité qui est proposée également.
Et qui fonctionne.
Qui fonctionne, oui.
Avec les jeunes, assez ouvert, là. Mmh. Le cheval est quand même l'animal qui apaise peut-être là, souvent. Ben, le chien, certes, mais le cheval impose, quoi. C'est cela, quoi. Mmh. Souvent, le jeune se calme quand on est proche d'un cheval.
Mmh. Le cheval, mais les autres aussi, hein, même
et
le autres, ça marche très bien aussi.
Oui.
Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Bon, le cochon d'Inde, c'est dans les murs de l'IME. Hein.
Voilà. Ah, d'accord, bien sûr. Les autres activités, ça fait maintenant quelques mois que vous avez pris la direction de ces deux établissements. Avant, vous connaissez le secteur du handicap et vous étiez en charge des EHPAD, dont des personnes âgées, aujourd'hui des personnes un peu plus jeunes, mais vous connaissez dans votre parcours, on y reviendra tout à l'heure, vous connaissez bien le handicap et des jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou envie de marquer de votre direction dans les années qui viennent de ces deux IME? Une directrice, un directeur, une direction souhaite toujours faire quelque chose de particulier pour dire voilà, je vais laisser ma trace à l'IME de Joseph Forgue et à l'IME Biscaye. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle serait votre fierté?
Alors, je ne suis pas sûre d'être dans cette approche-là. Mon souhait vraiment en exerçant cette fonction de directrice, c'est d'être au plus près des besoins, de pouvoir répondre et d'être vraiment dans les projets, de pouvoir les mettre en œuvre. Mmh. Et c'est vrai que dans notre secteur, de plus en plus, c'est compliqué. Vous avez parlé des EHPAD, j'ai rencontré des équipes formidables, il y avait beaucoup de richesses humaines. La difficulté, c'est de pouvoir répondre à ces besoins, être vraiment dans le projet et puis... mon souhait, il est là, c'est de pouvoir répondre au plus près des besoins, ne pas être entravé.
Beaucoup de proximité avec les jeunes, les familles et vos équipes. Mais c'est une marque, Madame Orbistondo, de dire ça.
Proximité.
Je souhaite marquer de ma proximité, non, c'est ça.
Oui, de pouvoir répondre.
C'est votre politique.
Oui, c'est ça.
C'est intéressant pour dire voilà, je vais faire en sorte qu'il y ait l'émergence de nouveaux projets.
Effectivement, la question de démarche inclusive, c'est une démarche qui nous anime en ce moment. Elle ne peut pas se mettre en place à n'importe quel prix. Elle ne se décrète pas non plus. Et c'est un chemin qui sera long. Donc, vous dire que je souhaiterais qu'on puisse aller plus loin, tout en maintenant, bien sûr, dans notre institution, une solution. Parce que l'idée de ces politiques, c'est de proposer des réponses. Hein. On est davantage sur la question de la réponse que de la place. Hein. Donc, pouvoir être au plus près et apporter une réponse à chaque enfant, c'est ça, ce serait ça, arriver à faire ça.
Voilà. Donc, je retiens cette idée de proximité. Les budgets, vous gérez deux établissements, il faut quand même parler d'argent, il y a de l'organisation, il y a des ressources humaines. C'est un budget de combien? Parce que c'est en fait deux petites belles entreprises, deux petites PMI, PME sociales.
Oui, bon, on est...
C'est combien, Madame Bustondo?
On est à peu près à 2 millions et 2,3 millions pour chacun des établissements. Qui sont financés par des dotations de l'ARS.
Vous êtes en CEPOM ?
Nous sommes en CEPOM.
Donc, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Alors, question politiquement incorrecte, c'est assez. L'ARS vous soutient bien ou vous êtes critique à l'égard de l'ARS ?
Alors, l'ARS du 65 nous soutient beaucoup. Alors, vous me posez la question, je ne peux pas ne pas le dire.
Il faut le dire, alors.
On est vraiment soutenus par notre département. C'était aussi le cas lorsque j'ai travaillé, parce que j'ai fait un petit passage en MEX aussi, dans le conseil départemental du 65. Donc nous avons dans le 65 des autorités très, très proches, très soutenantes, avec lesquelles on a de vrais partenaires. Mais effectivement, la question des moyens, elle se pose, et là, ça ne se situe pas à ce niveau-là. Hein. C'est comment pouvoir bien aller répondre, accompagner un enfant sur des transports, aller le chercher là où il se trouve, l'accompagner là où il a besoin, si on n'a pas les moyens, ne serait-ce que matériels, au niveau des ressources humaines aussi, pour tout simplement aller chercher un enfant, il faut un chauffeur. Voilà, au-delà de l'accompagnement dans le projet proprement parler d'accompagnement. On a
toute la logistique était très importante pour qu'il y ait la réussite. Oui. Alors, parlant de ça, ce sont des familles et des jeunes qui se trouvent pour l'établissement de Tarbes. C'est plutôt la banlieue, c'est Tarbes et sa banlieue ou c'est assez éloigné quelle pourrait être la circonférence?
Ah oui, ben moi, pour chaque établissement, il y a facilement matin et soir entre 5 et 8 transports.
D'accord.
Hein, puisqu'on peut aller jusqu'à Argelès, jusqu'à Pau, dans le
64. Ce qui veut dire que c'est 20-30 km parfois.
Exactement, oui.
Mmh. Quand même.
Oui, ce sont
des allers-retours.
Oui, on essaie de ne pas, pas mettre en place des transports de plus d'une heure, hein, puisque les enfants sont dans le véhicule, ça devient ensuite un peu difficile.
On pourrait dire en moyenne 45 minutes, quoi. C'est ça, quoi. Oui. Quand vous dites moins d'une heure, mais 45 minutes, et c'est le matin et le soir.
Oui.
C'est-à-dire que vous allez chercher les enfants, et bien entendu, le soir, sauf pour ceux qui sont en internat, parce que vous nous avez dit que vous proposez l'internat.
Alors, il y a des places d'accueil de nuit.
D'accueil de nuit, pardon.
Voilà. Sur chacun des établissements, il y a 10 places d'accueil de nuit.
Et qui décide d'accueillir la nuit? C'est les parents qui vous font la demande?
Alors, on est toujours dans le cadre du projet des enfants,
hein, des
jeunes.
Enfants.
Alors là, on est plutôt sur des adolescents, avec de l'accompagnement vers l'autonomie. Le fait de pouvoir les accompagner sur prendre leur bus le matin, pouvoir faire les courses, des activités également de confection de repas, et puis tout ce qui est gestion du linge. Donc on est là sur des apprentissages d'adolescents, concernant des adolescents. Et alors quand je dis qu'ils sont 10 sur l'hébergement, ils sont 10 en file active, ils ne sont pas tous les jours 10, ce n'est pas tous les soirs 10. On est toujours, encore une fois, sur la question des réponses et du projet de l'enfant. Parfois,
c'est-à-dire
certains
qu'un
viennent
jeune
deux
peut,
nuits par semaine.
Voilà, un jeune peut venir et dormir de nuit, un autre c'est une nuit.
Exactement,
voilà.
Oui, c'est ça.
C'est très souple, quoi.
Oui.
Ça demande une organisation aussi très souple de la part de votre équipe logistique et éducative, quoi.
Oui.
Ce qui est tout à fait nouveau.
En général,
quoi.
On est une équipe dédiée, hein, puisque forcément, on ne peut pas enchaîner la nuit et le jour. Il faut toujours des temps de repos. Les fameuses, le droit du travail s'impose.
Bien sûr.
Donc, on a une équipe qui tourne sur l'hébergement dans chaque établissement.
D'accord.
Qui assure les levées et les couchers.
D'accord. Et là, quand vous dites lever et coucher, le jeune vient le soir ou vers 20h ou 18h, il dîne dans l'établissement.
Oui, c'est ça.
Oui,
mm-hmm.
C'est ça.
Oui, il peut prendre son bus depuis l'IME jusqu'à... Parce qu'alors, ce sont des petites... Notamment à l'IME Joseph Forgue, il s'agit d'une petite villa qui est dans Tarbes.
D'accord.
Donc, les jeunes peuvent prendre le bus pour aller jusqu'à la villa. Sur Biscaye, c'est un peu plus près. Mais ensuite, l'accompagnement aussi en fonction des projets. Il peut y avoir des démarches vers l'extérieur, de recherche de stage, vers l'extérieur également. Puisque la professionnalisation n'est pas seulement en interne. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a des recherches de stage en milieu au niveau des entreprises et vers l'extérieur.
Vous avez parlé que ces jeunes, on travaille l'autonomie. Est-ce que quand on a 20 ans, est-ce que ce sont des jeunes qui après pourraient vivre? Vous m'avez dit que certains vont en foyer, d'autres en ESAT. Mais est-ce que certains jeunes pourraient vivre à 20 ans, 21 ans, 22 ans, pourraient vivre dans un logement avec d'autres, un peu en autonomie, ce qu'on appelle aujourd'hui le logement inclusif? Est-ce que ce sont des pratiques auxquelles les établissements s'y préparent.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de jeunes dans cette configuration, mais ça ne peut pas être exclu. Évidemment que si c'était possible, on accompagnerait le projet de l'enfant, oui, bien sûr,
ça, du jeune. Oui, voilà.
Tout dépend du profil et de la possibilité, des capacités, enfin, de mettre en place ce...
Les familles sont demandeuses de ce type d'accompagnement, en disant on a envie que notre enfant soit autonome en ville, puisse avoir son petit appartement, son studio. Ou pour le moment, non, vous n'avez pas ce type de demande de la part des familles. Elles sont inquiètes.
Elles sont inquiètes toutes de l'après. Hein. Le travail sur l'après-IME est une préoccupation des équipes aussi. Hein. Donc, doit se travailler suffisamment en amont pour pas que... Bien, à la fin de l'accompagnement, l'enfant se retrouve en difficulté. Il faut vraiment qu'il soit préparé à l'après-IME. Donc les équipes sont dans cette démarche. Voilà. Mais nous n'avons pas aujourd'hui d'enfants en studio. Mais pourquoi pas ?
Pourquoi ? C'est des projets à venir qui doivent peut-être trouver des solutions. On parlait tout à l'heure du financement. Je vous ai dit que vous étiez en CEPOM. Vous avez terminé en CEPOM. Vous êtes en train de le renégocier. L'association renégocie le CEPOM.
Alors, le CEPOM s'est terminé en 2023. On aurait dû démarrer en 2024 un nouveau CEPOM. Bon, il y aura un avenant qui nous permettra de travailler le CEPOM durant l'année 2024 pour...
5 ans.
Exactement, à partir de 2025.
Donc, c'est toujours la base de 5 ans.
Oui, c'est 5 ans.
Donc, ça doit être un exercice difficile pour vos équipes et vous-même, pour trouver les objectifs et mieux répondre au territoire et aux politiques sociales de notre pays. Quoi.
Oui. Oui, c'est un exercice que l'on travaille en filière, hein, puisque c'est un CEPOM filière en RAS, donc établissement médico-sociaux de l'ENRAS.
Qui représente combien d'établissements pour la filière ? Vous avez une idée, une dizaine d'établissements, alors, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
C'est ça, 12 établissements.
Il y a des établissements et services, hein, voilà. KT, donc.
Non, l'ensemble des services. Écoutez, je vous propose de faire une autre pause musicale et partir dans les îles avec Ferrer et puis un petit parfum de Gardena.
estás en tu alma, la virginal pureta. Por eso es tu belleza, cual místico candor, perfume de gardenia, tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume de amor.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Nour Bistondo qui nous parle des deux établissements IME, Institut Médico-Éducatif, Tarbes et Lourdes. Et nous sommes dans, pourrait-on dire, la fin de notre émission, mais quand même, il faudrait parler de vous, Madame Nour Bistondo. D'abord, comment êtes-vous venue dans ce secteur médico-social ? C'est un jour, en vous levant, vous dites, tiens, j'ai envie d'embrasser ce métier. Racontez-nous cette rencontre avec ce secteur.
Alors, oui, c'était une rencontre, je pense, une belle rencontre, puisque quand elle a démarré, elle ne s'est pas interrompue jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, j'ai un tracé un petit peu, on va dire, toujours dans le secteur, mais auprès de publics différents, hein, puisque j'ai commencé dans un foyer de vie, d'accueil médicalisé.
Vous avez commencé dans une résidence et service à Mont-de-Marsan, dans les Landes.
Alors, c'était
donc,
foyer
le cadre
de vie,
direction, ouais. C'était un foyer de vie, ça ?
Voilà, foyer de vie,
d'accord.
Foyer d'accueil médicalisé.
Et c'était des enfants ou des adultes handicapés ?
Des adultes en situation de handicap.
Adultes en situation de handicap.
Oui, voilà. Donc là, j'ai exercé presque 20 ans. Et j'ai pu évoluer, on va dire, professionnellement, découvrir le secteur, et puis... passer un CAFDES et ensuite m'orienter.
Qui est le diplôme de référence dans le secteur.
De directeur dans le secteur. Voilà. Et j'ai ensuite, bien évidemment, cherché un poste de direction. Et c'est ainsi que j'ai pu intégrer un poste de directrice adjointe à l'ANRAS.
D'accord. Déjà, la première expérience à l'ANRAS.
À l'ANRAS, dans une MEX, maison d'enfants à caractère social.
C'était un changement, quoi.
Un changement.
S'occuper du handicap et aller dans une MEX.
Oui.
Quelle était la première surprise entre un foyer et une maison d'enfants à caractère social ?
Effectivement, c'était une grosse surprise. Le rythme, je vais dire, le rythme nécessaire dans l'accompagnement, dans la décision. Puisque... d'un instant à l'autre, les choses pouvaient changer avec des publics difficiles. Hein, enfin, en MEX, des publics en souffrance, des publics qui viennent nous pousser dans nos retranchements. La découverte d'une équipe pluridisciplinaire également très riche. Alors, moins, on n'avait pas le versant santé, on n'est pas dans le médico-social, on est dans
non,
le
là,
social.
Non, vous étiez dans le social, oui.
Voilà, très très riche sur le plan des échanges, de l'approche, de l'éclairage autour des situations. Et puis j'ai vraiment apprécié cette place où on est au cœur de la relation familiale, hein, souvent la séparation enfant, noyau familial, qui évidemment on espère le moins... qui dure le moins possible. On est là pour mettre en place des solutions qui vont permettre à l'enfant de renouer une relation avec ses parents. Mais c'était très riche, effectivement, très riche. Et puis, m'ont guidé également, enfin ensuite, la recherche d'un poste de directrice. Et c'est ainsi que à l'EHPAD d'Aussun, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer toujours à l'ANRAS.
Aussun, toujours dans les Hautes-Pyrénées.
L'EHPAD, oui. Voilà. Dans les Hautes-Pyrénées. Là, c'était un EHPAD. Alors, vous dire que ce poste de directrice n'est pas forcément attaché à un public en particulier. J'aurais pu exercer, pourquoi pas, en CADA, en CHRS, ça m'aurait bien plu. Donc, j'aime le métier et la mission, la fonction, et pas forcément la tâche à un public spécifique. Voilà, je trouve de la richesse dans l'accompagnement de tout public, en difficulté.
Et comment vous est venue l'idée de postuler à l'ANRAS ? C'était plutôt donc bouche à oreille, une personne qui vous avait orienté, vous aurez pu aller vers d'autres associations. Alors pourquoi l'ANRAS si ce n'est pas trop indiscret?
Alors pourquoi l'ANRAS? Bon, comme toujours, on postule, on étudie les offres d'emploi, on regarde le profil du poste, et puis évidemment ensuite on se renseigne sur l'association, et je n'entendais effectivement que de bons retours. J'avais de bons retours de l'ANRAS. Bon, au niveau géographique, c'est tout à fait.
Vous êtes très attaché à votre région.
J'aime bien le Sud-Ouest. Oui, bien sûr, mais bon, je peux être aussi mobile, hein, y a pas de... Mais l'ANRAS, je pense, c'est une association enfin, qui a bonne presse, entre guillemets, qui défend des valeurs tout à fait en correspondance avec ce que j'attends aussi sur le plan professionnel. Et solidarité, humanisme, bon, c'est des publics aussi divers, variés, hein, ça correspond aussi un petit peu au parcours que j'ai pu avoir. Donc je m'y retrouve, oui, à l'ANRAS, je ne regrette pas d'y être.
Alors, voilà. Et maintenant, donc, parcours UNEMEX, des EHPAD et aujourd'hui des IME, allez, dans 5-10 ans, vous avez envie de changer, de faire autre chose? Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Si oui, est-ce que vous avez... Une question, mais vous pouvez ne pas répondre. Est-ce que vous avez un plan de carrière, Madame Rubistondo?
Alors déjà dans 10 ans, bon, je serai ma carrière, ça sera la retraite, donc voilà.
Mais vous êtes aussi jeune.
Je vous remercie, mais non, pas tant que ça. Donc oui, dans ces temps, je pense que voilà, je serai à la retraite. Mais non, je pense là je suis au niveau, je suis directrice des deux IME depuis peu. Oui, je pense que vous avez abordé tout à l'heure la question de ma mission au sein de ces deux IME. Elle ne fait que commencer.
Ah. Et qui sera une belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous dire une de grandes fiertés dans le métier que vous avez eu dans le foyer, dans l'AMEX, dans les EHPAD et aujourd'hui? Quelque chose qui vous a marqué et donc vous êtes très très fier? Quelque chose, vous dites, alors vraiment, pour moi, ça a été un moment privilégié, un moment suspendu.
Alors, il y en a eu beaucoup de moments dans plusieurs décennies. Moments suspendus.
Non.
ça serait quand j'ai défendu plusieurs projets et qu'on a pu avoir des retours positifs avec des financements. Bon, j'ai pas toujours réussi à les mettre en œuvre. Et là, on retombe un petit peu. C'est vrai que lorsque le projet est retenu, c'est une fierté. Et on se dit, on va pouvoir le mettre en place, on va pouvoir répondre à des besoins. Et voilà, ça, c'est ça, effectivement. Mais la question, quand même, c'est de parvenir à le mettre en œuvre et qu'il dure.
Je vais reformuler la question autrement. Vous dites, bon, je vais terminer ma carrière d'ici une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans. Quel conseil donneriez-vous à un jeune directeur? Alors, quel conseil? Surtout, vous dites, j'aime la fonction, j'aime ce travail de direction. Vous qui avez l'expérience, qui avez vécu plusieurs secteurs, allez, un jeune cavdésien qui a envie, un jeune master qui a envie d'être directeur, vous diriez, voilà le conseil que je vous donne. Veillez à ceci, veillez à cela. Ça serait quoi, madame?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des formations, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres approches que celles que l'on avait en tant qu'ancien dans des formations, surtout dans le social, où il fallait être taillable et corvéable. Hein. On connaît quand même l'origine de notre secteur. Et c'est vrai qu'en formation, on était imprégné de tout ça. Je pense qu'il faut continuer. On ne peut pas être directeur dans ce secteur sans être complètement engagé. Et il y a quelque part, alors je ne vais pas dire du don de soi, mais il faut quand même...
Quand vous êtes engagé, c'est aussi une vocation, vraiment? Est-ce qu'on peut parler de ça?
Je pense, oui.
Ouais, c'est un métier vocationnel.
Oui, je pense que pour vraiment le mener à bien, c'est un métier difficile. Bon, ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un métier, justement, hein, proche de l'humain, qui peut nous renvoyer des difficultés, beaucoup de souffrances. Et puis, au niveau des équipes... nous nous retrouvons également ces ressentis. Hein, donc il faut être soutenant en tant que directeur. Il faut être proche des usagers, proche des équipes, être à l'écoute des usagers, des équipes. Alors on parle maintenant des personnes accompagnées, on ne parle plus d'usagers, des personnes accompagnées, hein, les publics, mais les familles, et proches aussi des équipes. Donc on doit vraiment... oui, vous avez parlé de la proximité tout à l'heure. Je pense que cette proximité, on ne peut pas faire sans aujourd'hui.
Merci. Encore. Merci, Madame Anne Orbistondo. Merci pour vous livrer. Personnellement, parler de votre métier avec passion, on sent que vous êtes une humaniste, que vous êtes engagée. Vous dites, à juste titre, oui, c'est un métier peut-être vocationnel. Il faut se donner à fond pour défendre les personnes les plus vulnérables. Mille merci, chers amis. Sentinelle d'humanité s'achève. C'est le début de l'année. Encore une fois... très belle année, et nous continuerons à accueillir des directeurs, des directrices, des présidents, des présidentes dans le secteur. Très prochainement, nous recevrons Cité Caritas pour parler de l'accueil, de la loi, asile, immigration, les acteurs de la FAS, dont la Fédération des acteurs du social. Et vous verrez, chers amis de Sentinelle d'Humanité, qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans notre secteur. À très bientôt et très belle année.